question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. Le nouveau Moyen-Orient vous semble-t-il, oui ou non, en marche? Eh bien, vous êtes 56% à penser que oui sur Facebook, 67% à également penser que oui sur X, mais par contre sur Insta, vous êtes 56% à penser que non. Alors, ma chère Lise, en compagnie de notre invité, eh bien, nous allons en savoir plus, notre invité qui n'est autre que Léa Landman, elle est géopolitologue, et je vous laisse parler de cela avec elle, bien sûr.
Léa Landman, bonjour.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Léa,
avec
qu'en
plaisir.
Dites-vous? Est-ce que ce nouveau Moyen-Orient vous semble bientôt en marche, déjà en marche à l'avenir? Dites-nous tout.
Alors, clairement oui, parce que le Moyen-Orient qu'on va voir se dessiner, qu'on est en train de voir se dessiner, va être différent du Moyen-Orient déjà d'avant le 7 octobre et surtout après l'enchaînement des événements depuis le 7 octobre jusqu'à cette guerre actuelle avec l'Iran. En fait, il y a comme un resserrement des acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'il y avait le chaos avant. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de penser à une guerre comme autre chose que le chaos, mais en fait, au Moyen-Orient, le chaos existait avant. Et après cette guerre, il y aura moins de chaos puisque moins d'acteurs de milices. On va arriver vers un Moyen-Orient plus resserré entre acteurs, en fait. Hamas très affaibli, Hezbollah affaibli, les milices chiites en Irak qui doivent jouer un autre jeu politique, l'Iran qui pourra pas financer les milices de la même façon. Donc on va avoir un jeu géopolitique, en fait, entre pays, entre États.
Alors justement, Léa, est-ce qu'il y a des rapports qui sont en train de changer en ce moment entre notamment Israël et les pays du Golfe?
C'est toujours la grande question et c'est toujours la question. La première chose que je veux noter, c'est que les accords d'Abraham ont tenu avec 2 ans et demi de d'instabilité régionale très grande. Les accords d'Abraham ont tenu. Et ça, pour moi, c'est un des signaux les plus importants de l'importance des accords d'Abraham. C'est l'accord le plus important depuis 25 ans au Moyen-Orient, puisqu'il a permis cette structure. Et les accords d'Abraham sont intéressants parce que à la base, ils reposaient sur des coopérations militaires au niveau des renseignements, de la protection aérienne, etc. Et ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Ce qu'on va voir maintenant, déjà, on peut voir que entre les Émirats et Israël, idéologiquement, il y a eu un resserrement, il y a eu un rapprochement contre l'Iran, contre les extrémistes, etc. La vraie grande question, c'est toujours l'Arabie Saoudite. Et pour moi, l'Arabie Saoudite, c'est un joker. Parce que avant le 7 octobre, c'était clair qu'il y aurait une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Après le 7 octobre, c'était plus clair. Jusqu'à il y a 6 mois, on voyait l'Arabie Saoudite essayer de redessiner en fait ses alliances avec le Pakistan, avec un rapprochement avec le Qatar et la Turquie, qui n'est pas un rapprochement idéologique. Et maintenant, je ne sais pas dire, je vous dis honnêtement, comment va agir l'Arabie Saoudite. Il y a eu un grand désenchantement dans le Golfe, et donc avec l'Arabie Saoudite, les pays arabes, par rapport à l'Iran. Eux, ils ont pensé que leur politique d'apaisement et de rapprochement allait les protéger. Et en fait, toute cette doctrine leur explose un peu à la figure, puisque les premiers à être touchés, figurez-vous que c'est même pas Israël, c'est les pays arabes. Donc la manière dont l'Arabie Saoudite va agir post-guerre est un grand point d'interrogation.
Alors un autre acteur qui est un peu apparu entre guillemets parce qu'il jouait pas un grand rôle au Moyen-Orient jusqu'à maintenant, c'est le Pakistan. Aujourd'hui, c'est le seul médiateur des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Pakistan, sa position? Est-ce qu'Israël peut faire confiance à un médiateur comme le Pakistan, Léa Landman?
Israël n'a pas besoin de faire confiance au Pakistan. C'est pas la question. Le Pakistan, c'est un acteur qui est accepté par Trump et par l'Iran pour plein de raisons. Raisons géographiques, raisons de minorité, grande minorité chiite au Pakistan, raisons de business, raisons de proximité, beaucoup de raisons. Mais Israël n'a pas besoin de faire confiance au Pakistan et ne fait pas confiance d'ailleurs au Pakistan, mais là n'est pas la question. Le Pakistan s'est dessiné comme négociateur parce que les négociateurs habituels, c'est-à-dire Oman et le Qatar, ont été touchés. Ils ne peuvent plus être négociateurs neutres. En revanche, pour la Chine qui aurait dessiné d'ailleurs cette idée, c'est un acteur acceptable et pour l'Iran et pour les États-Unis. Donc c'est pas qu'on va tout d'un coup voir le Pakistan devenir un acteur principal au Moyen-Orient. Mm-hmm. C'est un acteur, c'est un énorme pays qui compte beaucoup, qui a un accord de défense avec l'Arabie Saoudite et en même temps en guerre avec l'Inde et surtout en guerre avec l'Afghanistan. Donc c'est tout sauf un acteur neutre, mais par rapport à cette région du Moyen-Orient, ça fait l'affaire, ça fait le travail.
Alors justement Léa, la Maison-Blanche a annoncé hier, après l'échec du premier round de négociations le week-end passé à Islamabad, que Washington discutait d'une possible deuxième session de négociations avec l'Iran. Est-ce que vous y croyez et qu'est-ce qu'on peut en voir sortir de cette deuxième session?
Alors déjà, si je peux me permettre, je pense pas qu'il y a eu un échec du premier round. Je pense que c'était à prévoir, c'est-à-dire que c'est comme la rencontre entre les Israéliens et les Libanais, c'est-à-dire que c'était une rencontre pour essayer de voir où peuvent s'accorder les parties.
Et où sont les lignes rouges de chacun.
Voilà, c'était plutôt pour voir les lignes rouges, tester un peu le feeling entre toutes les parties. Mais Trump a été très clair, hein, même quand il a annoncé le blocus sur Hormuz que maintenant il a annulé. Il a dit que, enfin, les négociations étaient en parallèle. Donc c'était pas un échec d'un premier round, c'est juste que le premier round n'a pas abouti tout de suite. Il semblerait que l'Iran et les États-Unis aient accepté aussi de prolonger le cessez-le-feu. C'est-à-dire, en fait, de prolonger les pourparlers, sachant que, finalement, on ne peut pas aboutir à un cessez-le-feu aussi compliqué en 2 semaines. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe. En parallèle, Trump fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il continue. Il y a 10 000 soldats américains qui sont acheminés vers la région. Il lâche pas la pression, les menaces continuent en parallèle. Mais il le dit aussi très clairement, de manière assez optimiste, assez trumpienne, j'ai envie de dire. La guerre est pratiquement terminée, on va y arriver. On va arriver à un accord. Donc, de toute façon, il y aura un accord. La question n'est pas si la guerre va se terminer ou pas. La guerre va se terminer pour le moment. La question est pour combien de temps? Et la deuxième question, c'est dans quelles conditions?
Alors, est-ce qu'on peut se demander justement, Léa Landman, est-ce que l'Iran va finir par céder sur le nucléaire? Puisque à chaque fois qu'on entend parler des négociations, tout de suite, il y a un responsable iranien qui dit on va continuer à enrichir de l'uranium, on va continuer à faire ce qu'on a besoin sur le programme nucléaire. Même si Trump en face dit toujours il n'y a pas moyen de faire un accord si vous continuez le nucléaire.
Je ne sais pas quoi répondre. J'aimerais penser que les lignes rouges qui ont été mises autour de l'enrichissement nucléaire vont tenir. Enfin, en tout cas, vont tenir dans le sens où ce ne sera pas négociable. Pour l'instant, ce qu'il y a sur le stock qui existe, c'est... soit il va être enlevé et transporté dans un autre pays, la Russie peut-être, soit il va être dilué sur place. Sur l'enrichissement, les États-Unis demandent 20 ans et les Iraniens demandent moins. Honnêtement, à moins qu'il y ait une supervision totale sur ce qui se passe en Iran, les Iraniens feront ce qu'ils ont envie sur le long terme. La question, c'est est-ce qu'ils vont risquer de le refaire tout de suite parce que leur motivation est grande. Regardez, aujourd'hui, vous en avez sûrement discuté, mais personne n'attaque la Corée du Nord. C'est un pays qui est zéro menace, mais il a l'arme nucléaire. Mm-hmm. Donc la motivation iranienne d'arriver à une arme nucléaire, elle va pas être amoindrie. La question, c'est qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Parce que au-delà des doubles discours de tout le monde, au-delà de la surenchère de j'ai gagné, j'ai explosé, j'ai tenu ou j'ai tout détruit, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, l'Iran a été très affaibli. Il parle de 240-250 milliards de dommages directs et indirects. Il va falloir quand même nourrir cette population de 90 millions d'habitants qui est, on peut le dire au minimum, pas très contente. Il faut reconstruire l'industrie militaire, etc. On comprend pas encore aujourd'hui quelle sera la priorité du gouvernement du régime iranien.
Alors justement, ça sera ma dernière question, Léa Landman. Est-ce que ce régime des mollahs qui fait tout pour tenir, il va réussir à rester au pouvoir ?
Vous aimez bien les questions de oui et non, hein, je vois. Trump pourra dire toujours que son qu'il a fait un changement de régime puisque tout le monde a été décapité. Ce qui est en train de se dire, il y a deux choses qui se disent aujourd'hui en Iran qui sont vraiment invérifiables pour l'instant. C'est un, qu'il y a des grands désaccords entre les gardiens de la révolution et le leadership politique. Le leadership politique voudrait quand même terminer cette guerre, voudrait qu'on dégèle les finances iraniennes parce qu'ils sont vraiment dans un état catastrophique. Les gardiens de la révolution n'ont pas les mêmes motivations. Ils tiennent 40% de l'économie iranienne. Ils sont pas dans la même urgence. Et la deuxième question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que effectivement les gardiens de la révolution ont renforcé leur position? Ça c'est oui, mais est-ce que c'est eux qui vont remplacer en quelque sorte le régime des mollahs? C'est la grande question. Beaucoup d'experts pensent que les gardiens de la révolution ont politiquement réussi à se renforcer. Ce qui veut dire, parce qu'il y a plein de théories autour de est-ce qu'une junta militaire peut tenir, c'est beaucoup moins stable. Ça c'est pas des bonnes nouvelles pour les Iraniens sur le court terme, mais ce genre de régime a quand même tendance à être écarté par des coups d'État internes, etc. Donc, ils vont rentrer dans une sorte d'instabilité interne, pas du tout à l'irakienne, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça veut rien dire, en fait, sur le long terme. Et je rappelle aussi qu'aucun expert en relations internationales n'avait prévu la chute du mur de Berlin.
Bien sûr.
Tout ça nous fait dire qu'il y a des grandes questions. Le peuple iranien était vraiment prêt au changement. Est-ce qu'il va réussir à le faire dans l'immédiat? On ne sait pas. Mais je pense que sur le moyen et long terme, c'est pas du tout impossible.
Merci beaucoup, Léa Landman, pour cette analyse. Je rappelle que pour les gens qui s'intéressent à votre expertise, ils peuvent écouter votre podcast qui s'appelle Zone d'influence et qu'on trouve sur toutes les plateformes. Merci beaucoup et bonne journée, Léa Landman.
Merci, Lise. Bonne journée. Au revoir.